Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, eh bien, une nouvelle fois, on va parler du fabriqué en France avec cette question. Est-il possible de produire des sneakers, des baskets dans notre pays? C'est le défi un peu fou sur le papier qu'est en train de réaliser notre premier invité, Philippe Zorzetto, le fondateur de la marque de chaussures qui porte son nom. Mais pour réussir son pari, eh bien, il a besoin d'un volume conséquent de précommandes. On en parle avec lui dans quelques instants. Au sommaire, également deux entreprises qui, elles, comme Stone & Chardin, n'envisagent pas autre chose que le Made in Normandie. Il s'agit des Madeleine Jeannette et des Parapluies de Cherbourg. On écoutera leurs deux dirigeants dans cette émission. Enfin, j'aurai le plaisir de recevoir François Billoux, c'est le cofondateur de Cantou, sa solution logicielle Cantou Scribe. S'adresse notamment aux enfants atteints de ce que l'on appelle les troubles 10, dyslexie, dyspraxie ou encore la dysorthographie. Après un Tech for Future reçu sur BFM Business au mois d'avril, Cantou Scribe est le grand gagnant de la 7e édition de la fabrique Abeille Assurance, dont la finale a eu lieu il y a quelques jours. Mais tout d'abord, parlons de luxe. C'est, vous le savez, un des piliers de l'économie tricolore et le français LVMH est bien sûr le numéro un mondial du secteur. Le succès du luxe, ce sont avant tout des matières de qualité et des savoir-faire artisanaux. LVMH a donc décidé d'ouvrir en 2025 une maison des métiers d'excellence qui sera à la fois une vitrine de ses savoir-faire et un espace de recrutement. Il y a quelques jours, le groupe a présenté la maquette de ce futur site. Ce sera dans la mythique rue Bayard qui a abrité RTL pendant plus de 80 ans. Ce sera surtout à deux pas du siège de LVMH, avenue Montaigne. C'est un reportage signé Raphaël Couder.
Un lieu hybride, à la fois vitrine des savoir-faire du groupe et centre de formation, cet espace de 2000 m² doit aussi permettre à LVMH de recruter, explique Chantal Gamperlé, la directrice des ressources humaines du groupe, à l'initiative de ce projet.
Nous avons des vrais besoins de personnel, de talent, dans énormément de métiers. On doit recruter simplement chez LVMH d'ici 2025 8000 personnes de manière à pouvoir soutenir notre croissance et notre développement. Donc important de sensibiliser les publics, de faire connaître ces métiers, de pouvoir de ce fait créer des vocations et créer de l'emploi.
Couture, maroquinerie, joaillerie, en tout ce sont pas moins de 280 métiers qui recrutent dans les différentes maisons LVMH. Pour les faire connaître, le groupe compte donc sur ce lieu entièrement ouvert au public, comme l'explique Alexandre Bocquel, le directeur des métiers d'excellence du groupe.
On va avoir ce grand public qui va se mélanger organiquement avec les professionnels, qui va se rencontrer dans des lieux vie, nous aurons un café, une galerie de savoir-faire, et on espère qu'en faisant ça, on va créer une connexion entre grand public et professionnels pour faire naître des vocations et s'assurer que la filière des savoir-faire en France soit pérenne et se perpétue.
Située à deux pas du siège social du groupe et des ateliers de haute couture Dior, cette maison des métiers d'excellence doit ouvrir ses portes fin 2025.
Bonjour Philippe Zorzetto.
Bonjour.
Que vous inspire cette maison des métiers d'excellence que va donc ouvrir LVMH en 2025?
Eh bien, je trouve ça très positif qu'un groupe comme LVMH mette en avant les savoir-faire français.
Parce que vous, c'est quelque chose que vous mettez en avant. On va donc parler de votre métier. Vous avez votre propre marque de chaussures depuis 2009. Qu'est-ce qu'on trouve dans la maison Philippe Zorzetto comme type de chaussures?
Alors, on trouve des chaussures qui sont faites à la main, uniquement en France et en Italie. Parce que ma volonté, c'est de choisir les meilleurs savoir-faire locaux et de proposer les meilleurs produits possibles à mes clients.
On va refaire un peu d'historique. Donc, vous êtes sur du Made in France et du Made in Italie. Quand vous avez fondé la marque en 2009, on était plutôt sur du Made in Espagne. Qu'est-ce qui vous a fait basculer vers l'Italie et la France?
Honnêtement, ce sont les savoir-faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de choisir les meilleurs savoir-faire qui existent. Et effectivement, quand j'en trouve en France, ou en Italie, eh bien, je veux vraiment travailler avec les acteurs locaux. C'est fondamental, vous voyez.
Et les types de chaussures que vous proposez, on n'en a pas parlé, chaussures hommes, chaussures femmes, quel type de chaussures de ville, des sneakers, on va en parler.
Alors, on a une vraie ouverture, une vraie gamme, puisque c'est hommes et femmes, on trouve des baskets, on trouve des Richelieu, on trouve des boots, on trouve des mocassins, on trouve des sandales, on trouve des espadrilles, et voilà, et chaque fois, c'est lié à un savoir-faire et une grande partie maintenant est produite en France.
Et dans quel positionnement? Vous êtes dans du haut de gamme, dans du luxe? Vous définiriez comment votre gamme?
Alors, c'est du premium. On est juste avant l'entrée du luxe. Après, on se bat pour avoir des prix compétitifs compte tenu de la qualité et on essaye de ne pas être trop cher pour quand même rendre le Made in France et le Made in Italy accessible.
Un mot sur vos canaux de distribution. Vous avez, je crois, une boutique en propre dans le Marais. Est-ce que c'est la seule? Et sinon, c'est de la vente par correspondance?
Alors, oui, on a une boutique historique qui est dans le Marais.
Et des corners?
Et au 106 rivière du Temple, il y a également un corner et essentiellement Internet, qui est un de nos levées de croissance très très important.
Vous vendez combien de paires de chaussures en moyenne en France? Ou alors les chiffres 2022, c'est quoi votre...
On est sur des milliers de paires.
Ouais. C'est-à-dire, on est plus proche des...
Ah non, on est plus proche des... Non, on est à, je sais pas, les chiffres exacts, mais on est autour de 4-5 000 paires par saison.
Alors, vous nous avez parlé de la relocalisation, donc une partie reste en Italie quand même, parce que là, on est du 50-50 de ce qui est fait en Italie, de ce qui est en France.
Ça dépend des saisons. C'est vrai que l'été, par exemple, on produit des espadrilles et des sandales en France, donc on est plus sur du 70-80% en France. En hiver, tout ce qui est boots, c'est produit en Italie. Mais moi, je m'appelle Philippe Zorzetto, donc
d'origine italienne.
D'origine italienne.
Avec un grand-père, je crois, qui travaillait dans un atelier de chaussures dans la région de Venise, hein,
je crois,
c'est
absolument. Ça. Et d'ailleurs, j'ai récupéré ses formes. C'est, je dirais, grâce à lui que j'ai lancé mes collections, puisque j'utilise toujours les formes de mon grand-père.
Alors nous, on va se concentrer sur le Made in France, même si on aime beaucoup l'Italie, évidemment. Mais le Made in France, donc ça c'est, vous nous avez dit, ça s'est imposé et ça s'impose de plus en plus. Mais comment est-ce qu'on retrouve des fabricants de chaussures en France, dans un pays qui, je crois, a divisé par 10 en quelques années ses usines de production de chaussures?
Je veux juste donner un chiffre pour... Parce qu'en réalité, il y a une vingtaine d'années, il y avait à peu près 100 000 personnes qui travaillaient dans l'industrie de la chaussure. Aujourd'hui, on est, je dirais, moins de 10 000. Donc effectivement, il y a eu un vrai déclin. Et donc, c'est pas évident de trouver des ateliers. C'est pour ça que quand moi j'en trouve, je veux absolument travailler avec eux pour relocaliser au maximum et garder ces savoir-faire. Parce qu'un atelier qui ferme, c'est un savoir-faire qui se perd. Et c'est très, très difficile après de recruter et de développer.
Et quelles sont les usines que vous avez trouvées? Vous nous avez parlé des espadrilles. Donc ça, c'est dans la région, évidemment, du Pays Basque. C'est à Mauléon-Lichard.
Absolument. Ouais, c'est d'ailleurs les meilleures espadrilles du monde, je pense, puisque elles sont nées là.
Vous avez aussi à Tarascon. Qu'est-ce qu'on vous fait à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône?
On fait des sublimes sandales, puisque dans la région, il y a ce savoir-faire également. On fait des mocassins aussi.
Et puis, l'usine dont on va parler un peu plus longuement, c'est celle de Montjean-sur-Loire, c'est dans le Maine-et-Loire. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette usine qui, je crois, fait partie du groupe Eram?
Alors, on fait uniquement des baskets, des sneakers, comme on dit aujourd'hui. Et pareil, là, il y a un savoir-faire incroyable. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le Made in France, il est lié véritablement à une qualité, à un savoir-faire. Si ces ateliers n'avaient pas les savoir-faire, les compétences, je travaillerais pas avec eux.
Mais alors, pourquoi ces sneakers, vous les faites faire dans le Maine-et-Loire et pas au Portugal, comme la plupart des sneakers que l'on vend en France? Certains même mettent une étiquette, enfin, un petit drapeau tricolore, mais vous allez jusqu'au bout, vous dites peut-être que ce drapeau, je l'aurai, mais en tout cas, c'est du fabriqué en France et c'est garanti.
Bah, disons que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est à la fois de lier le Made in France avec l'écologie. C'est vrai que le fait de produire en France avec des matières naturelles et recyclées à 1h30 de Paris, ça permet d'avoir une empreinte carbone très 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 faible. Donc on propose aux clients à la fois des sneakers d'une qualité incroyable. Ils savent exactement qui les fait, comment on les fait, où elles sont faites avec un bilan carbone très très faible.
Et c'est dans cette usine donc que vont être faites les fameuses sneakers. Et cette opération que vous lancez en plein cœur de l'actualité du Made in France, il y a le salon la semaine prochaine. Ouais. Quelle est cette opération? Parlez-nous-en. Vous avez besoin pour que ce soit rentable le plus possible et pour vous en tant que producteurs et pour les consommateurs, vous avez besoin d'un volume important de précommandes.
L'idée, c'est de rendre le Made in France un peu plus accessible. Donc c'est vrai qu'on a fait, une opération de précommande parce qu'on veut tabler sur du volume, ce qui va permettre de faire des économies d'échelle et plutôt d'avoir un produit, une paire qui soit vendue à 250 €. Grâce à la précommande, on peut arriver à 195 €, livraison offerte. Donc on est vraiment dans un prix hyper compétitif par rapport notamment au Portugal. Et c'est super encourageant. En revanche, c'est vrai qu'on a besoin de volume et qu'on est obligé d'avoir nos 2000 précommandes.
Jusqu'à quand ces 2000
Jusqu'au 19 novembre 2023.
On enregistre cette émission le vendredi 3 novembre. Vous avez lancé les choses le 31 octobre.
Bonjour.
Il y a un petit peu plus, mais
un
voilà.
Peu plus, ouais.
Le bilan déjà, est-ce que vous êtes loin des 2000 à l'instant?
On a commencé il y a quelques jours, donc ouais. Là on est à un quart.
Un quart.
Ouais.
Et vous êtes confiant pour les objectifs au 19 octobre ?
Écoutez, oui, parce que il y a une vraie communauté aussi derrière nous. Il y a le salon du Made in France, donc Puis c'est un pari et on va y arriver tous ensemble.
Est-ce que vous avez le fameux label Origine France garanti ?
Pas encore, mais on est en train d'y bosser dessus.
Voilà. Et nous serons avec Gilles Attaf la semaine prochaine, qui sera sur la spéciale du salon du Made in France. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par les sneakers dont on a vu quelques modèles, 190 €, 195 ou 10,
195 avec la livraison offerte.
Avec la livraison. Donc pour l'instant un quart, il reste trois quarts des précommandes à obtenir. Allez donc sur le site. Merci beaucoup Philippe d'avoir
Merci
été
infiniment.
L'invité de la France à Tout pour réussir. Voici quelqu'un qui se bat également pour le produire en France. C'est Charles Yvon, le président de la marque Le Parapluie de Cherbourg, marque créée par son père en 1986 et qu'il a reprise en 2018. Alors 60 ans après le célèbre film musical de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, eh bien le succès est au rendez-vous pour Le Parapluie de Cherbourg. Et comme vous Philippe, les mêmes ingrédients, la qualité et le savoir-faire français. On écoute Charles Yvon, il était l'invité de Sandra Gandouin dans une émission délocalisée à Caen il y a quelques jours.
J'ai repris l'entreprise en 2018. On est passé de 9 personnes à 30 personnes. Donc c'est comment on finance. Moi je suis plutôt un gestionnaire en bon père de famille, donc on fait tout en autofinancement.
Ouais.
Donc ce qui est compliqué, c'est qu'on augmente nos stocks, on augmente les ventes fortement, la production on l'a multipliée par 4 en 4 ans. Donc ce qui est beaucoup pour une manufacture, parce que tout le travail est fait à la main. Donc on parle de savoir-faire.
Oui, là on est sur pas des parapluies jetables, attention, qu'on trouve dans les petits commerces. On est sur du vrai, beau parapluie normand, avec un savoir-faire derrière.
Tout à fait. Et le savoir-faire, il n'y a pas d'école de parapluie, donc on est obligé de former les personnes en interne. S'il y a 50 formations en interne.
Oui.
Donc quand on est en croissance, on peut aussi perdre des personnes qui ne s'y retrouvent plus dans l'entreprise. Donc il faut aussi garder tout le monde motivé. Là, je vous invite à venir tous voir la manufacture. Il y a une super ambiance. Tout le monde est content de venir travailler. Donc ça, c'était un de mes objectifs quand j'ai repris l'entreprise. Et aujourd'hui, il est atteint et tout le monde est content.
Le succès, c'est que évidemment, il y a des points de vente et une centaine de points de vente en France, c'est ça,
oui.
Il me semble. Et plus l'aventure Internet qui se développe énormément.
Et Internet qui se développe énormément parce que l'Internet, c'est le premier pas. Enfin, le premier pas, on est présent à l'export, mais ça nous permet d'envoyer les parapluies partout dans le monde tous les jours. On en envoie aux États-Unis, en Afrique, enfin sur tous les continents, en Australie. Et tous les jours, les parapluies partent dans les quatre coins du monde. Donc c'est aussi une fierté pour la marque employeur, pour les salariés de pouvoir travailler avec tous ces pays-là.
Vos clients, c'est du client individuel, mais c'est aussi des entreprises qui offrent vos parapluies, vos magnifiques parapluies, en cadeau d'entreprise. C'est quelle part entre le B2B et le B2C ?
Alors, la part en chiffre d'affaires, on est environ entre 30 et 40% sur du cadeau d'affaires. Par contre, en volume, on est plus, parce que forcément, quand on commande 1000 parapluies, 500 ou 50 parapluies, on n'a pas le même prix que quand on achète un seul. Et ça représente, c'est quelque chose qui se développe énormément. Là, je viens de clôturer le bilan, donc j'ai pu voir un petit peu la segmentation. Et c'est une part qui est fortement développée cette année. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que on offre un beau parapluie qui va protéger la personne à qui on l'offre. On offre tout le savoir-faire français du parapluie. On va protéger la personne à qui on l'offre. Voilà, il y a beaucoup de symbolique. Et c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est pas un objet marketing. C'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération. On est au-delà de la caisse de champagne. C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps.
C'est le modèle anti-bourrasque qui est votre grand succès dans la maison. C'est toujours le cas?
Oui, aujourd'hui, oui, c'est toujours l'anti-bourrasque qui représente une bonne partie des ventes parce que c'est des parapluies qui sont très solides. On les a testés à 155 km/h de face.
Ouais.
Donc on peut affronter n'importe quel temps normand, mais surtout n'importe quel temps dans le monde entier.
Voilà, donc des parapluies très utiles en ces moments de fortes intempéries. On va rester dans la région de Caen, à Colombelles précisément. C'est là que sont fabriquées les célèbres madeleines et autres biscuits de la marque Jeannette. Une marque rendue célèbre par le combat de ses salariés en 2014 pour sauver l'entreprise créée en 1850 et qui sortait de plus de 15 années très difficiles, marquées par des changements de propriétaires et plusieurs dépôts de bilan. Aujourd'hui, l'entreprise va mieux, elle va même bien. Près de 10 millions de biscuits sortent chaque année de l'usine. Alors comment exister et réussir face aux géants de l'agroalimentaire? Écoutez les réponses de Benoît Martinet, c'est le directeur général de la biscuiterie Jeannette. C'était également à Caen et toujours avec Sandra Gandoin.
Il faut se démarquer, notamment ouais, grâce à des ingrédients comme nous, comme ceux qu'on utilise finalement. Aujourd'hui, 100% de nos produits sont réalisés à base de beurre d'Isigny AOP. On est quasiment le dernier fabricant de madeleine en France à utiliser un beurre aussi haut de gamme. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on ne transversera pas. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie de défendre. 96% de nos ingrédients sont normands. Le reste sont français. Et même jusqu'à l'emballage, puisque 100% des emballages sont fabriqués en France. Et donc, on est vraiment garant et on fait très attention à tout ça.
Vous avez combien de sites de production ?
Un seul site de production. Celui de Colombelles, donc juste à côté de Caen. On est à 3 km d'ici. Et donc, aujourd'hui, on a un seul site de production.
Et vos marchés sont où ? La France, évidemment. Et puis,
c'est essentiellement la France. Aujourd'hui, on est très présent sur la partie Normandie, beaucoup en Île-de-France et puis le reste de la France. C'est une volonté de notre part. Et c'est aussi ma volonté avec la reprise de l'entreprise en 2019 de se recentrer sur nous, d'être très fort chez nous pour demain être fort ailleurs. Et ça, du coup, c'est vraiment notre stratégie commerciale qui est celle-ci.
Et les matières premières ont connu un sacré choc l'année dernière. Le prix, évidemment, et les produits alimentaires ont été particulièrement impactés. Comment vous avez passé cette phase ?
Et ben, on est toujours dedans. On se bat au quotidien. Aujourd'hui, une madeleine est faite avec 4 ingrédients principaux, à savoir le beurre, la farine, le sucre et les œufs.
Oui.
Globalement, c'est à peu près ce qui a augmenté aussi pour tout le monde à titre personnel. Donc, ben, nous, avec les quantités que l'on brasse, hein, pour vous donner une idée, on a à peu près 85 tonnes de beurre Disney AOP par an. Et en plus, on est sur une phase de croissance. Et donc aujourd'hui, bah, on subit, on n'a pas le choix. De toute façon, il faut aller de l'avant. Donc on subit aussi les augmentations des énergies, le gaz, l'électricité, c'est des charges importantes pour nous.
Mais vous mettez en avant cet argument made in France, cet argument ingrédient top qualité, ça fonctionne dans l'oreille des consommateurs?
Ça fonctionne, et en plus pour nous c'est quelque chose de très naturel, puisque finalement c'est l'ADN de Jeannette, hein, puisque depuis sa création en 1850 on était déjà sur de l'ingrédient local. Et c'est vrai qu'aujourd'hui finalement c'est tellement ancré chez nous, dans notre ADN, qu'on n'en parlait pas forcément, puisque ça nous paraît plutôt normal. Mais aujourd'hui, voilà, nos clients le savent, et aujourd'hui, on va quand même plus communiquer de plus en plus sur cette partie. Voilà, on défend vraiment ce qui se passe sur notre territoire.
Et puis dans l'actualité de la semaine, il y a aussi ce moment symbolique fort, l'inauguration par Emmanuel Macron de la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne, la même où il y a presque 5 siècles, le roi François Ier avait signé l'ordonnance instituant le français comme langue officielle des textes juridiques. C'était le premier acte fondateur de l'unité linguistique française. Cette Cité de la langue française a coûté 211 millions d'euros financés par l'État. Les détails avec Timothée Marouzet.
23 000 mètres carrés rénovés, 211 millions d'euros investis et 6 ans de travaux, la Cité internationale de la langue française se prépare à accueillir ses premiers visiteurs. Véritable joyau de la Renaissance, c'est ici que François Ier a promulgué en 1539 une ordonnance sur la généralisation de l'usage du français dans les textes officiels. Intégralement financée par l'État, la rénovation du château, qui a fait intervenir près de 200 entreprises, a absorbé plus de 90% du coût total, un budget conséquent suscitant de nombreuses critiques, une folie présidentielle selon ses détracteurs. Le ministère de la Culture se défend et rappelle qu'il s'agit certes d'un chantier considérable, mais bien moins cher que celui du Grand Palais, 466 millions d'euros, ou celui de l'Hôtel de la Marine, voulu par Nicolas Sarkozy, 141 millions d'euros. La cité permettra également de dynamiser le département de l'Aisne en difficultés économiques et sociales. Le lieu espère accueillir 200 000 visiteurs par an.
Et on va terminer cette émission en compagnie de François Billiou, qui par son activité a aussi quelque part un lien avec ce qu'on appelle parfois les difficultés de la langue française. Bonjour François Billiou.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur et le directeur technique de Cantou, grand vainqueur de l'édition 2023 de la Fabrique Abeille Assurance, concours annuel qui récompense les projets Impact. On en parlait il y a quelques semaines sur ce même plateau avec le directeur général d'Abeille Assurance, Philippe-Michel Labrosse. On va revenir sur la cérémonie du 17 octobre dans quelques instants. Mais rappelez-nous tout d'abord, François, le cœur d'activité de ce qu'est Cantou.
Alors nous, notre objectif, c'est de fournir un logiciel pour les élèves en situation de handicap à l'école pour qu'ils soient autonomes en classe.
Alors quel type d'élèves? On est donc sur ce qu'on appelle les élèves atteints notamment de 10, hein, c'est bien cela?
C'est ça, exactement. Donc par exemple la dyslexie, la dyspraxie, dysorthographie. Et puis on a noté en fait qu'on avait des impacts aussi positifs sur des élèves qui avaient des troubles de l'autisme, par exemple du spectre de l'autisme. Et des troubles de l'attention.
Et quels sont les outils numériques, on peut parler presque d'un cartable numérique, que vous mettez à disposition pour justement les assister, les accompagner, pour qu'ils aient une scolarité la plus traditionnelle possible?
Alors nous, notre pari, ça a été d'essayer de rassembler tous les outils dont ils auraient besoin pendant toute leur scolarité. Et du coup, on a 30 outils qu'on a rassemblés au sein de notre logiciel. Et pour donner une illustration, pour un élève dyslexique, par exemple, qui va avoir du mal à lire, on va lui fournir deux choses. On va lui fournir une synthèse vocale qui va lui permettre d'écouter les textes pour qu'il puisse comprendre les énoncés, le cours, etc., qu'il puisse les écouter. Et des outils d'adaptation du texte qui vont lui permettre d'avoir un meilleur confort de lecture.
Il peut aussi, enfin, pour ceux qui sont dans le cas de la dyspraxie, il y a aussi la possibilité de dicter. Il y a un dictaphone en fait, hein, quelque part, c'est ça?
Exactement, c'est ça. On a un outil qui permet à la fois de prendre des notes vocales pour enregistrer la voix et qui permet aussi d'en faire la transcription écrite.
Et puis ça permet donc aussi de changer la police, la taille des caractères, c'est très important pour ceux qui ont peut-être du mal à lire les choses. Enfin, tous les outils sont adaptés à tous les troubles en fait.
C'est ça, et d'ailleurs sur le changement de taille de police, en fait, on a travaillé aussi avec des développeurs qui étaient atteints de déficience visuelle et qui nous ont fait beaucoup progresser aussi pour permettre de rendre l'outil utile à des élèves qui seraient malvoyants par exemple.
Parce que parmi les, si on parle de cibles, les futures cibles, il y a aussi donc les troubles de la malvoyance, vous venez d'en parler, le daltonisme aussi, je crois.
Alors le daltonisme, non, c'est pas un sujet sur lequel on a travaillé, mais c'est vrai que notre logique, en fait, d'apporter vraiment tout un package d'outils de compensation permet de multiplier les usages et l'utilité pour tout un panel de troubles.
Quelle est l'estimation du nombre d'enfants, d'élèves concernés par tous ces troubles dont on a parlé en France?
Alors, aujourd'hui, d'après l'OMS, on estime que 10% de la population mondiale est concernée par les troubles 10. Ça fait 1 million d'élèves en France. Ça fait à peu près 2 à 3 élèves par classe.
Donc voilà, c'est quand même un marché énorme et qui n'était pas pris en compte du tout ou qu'il était mal, selon vous?
En fait, il y a deux problématiques sur ce marché. C'est déjà les connaissances scientifiques qu'on a sur le sujet qui sont assez récentes et qui continuent d'évoluer petit à petit. Et le deuxième, c'est, vu que c'est un trouble invisible, c'est le diagnostic, c'est-à-dire comment on fait pour détecter qu'un élève a un trouble 10 si on n'a pas d'outil de détection en classe. Et c'est une des problématiques d'ailleurs sur lesquelles on essaie de travailler aussi.
À l'heure actuelle, le déploiement de la solution, vous en êtes où? Combien d'établissements en France et dans d'autres pays?
Alors aujourd'hui, on suit 15 000 élèves, 400 établissements. Et on travaille dans 4 pays, surtout francophones.
Lesquels?
La France, la Belgique, la Suisse et le Québec.
Et puis je crois qu'une expérimentation donc a eu lieu avec une étude de la Croix-Rouge en 2022. Quel est le bilan de cette première implantation de vos solutions dans des établissements?
En fait, on a noté en fait, on a cherché à travailler sur, enfin, comprendre justement les bénéfices en termes d'autonomie pour les élèves. Et on a noté donc effectivement 74% des élèves qui gagnaient en autonomie. Mais on a noté aussi que du coup, ils reprenaient confiance en eux. Ouais. Donc on a noté plus de 80% d'élèves qui regagnaient de la confiance en eux. Et aussi des bénéfices sur la prise en main du numérique, qui est un sujet extrêmement important dans nos sociétés justement modernes et très numérisées.
Je reprends vos étapes de déploiement. Est-ce que vous avez eu, je crois, un premier contrat avec l'Éducation nationale en 2022 qui concerne 12 départements? Ce contrat est en cours. Et derrière ça, quel est votre modèle économique? C'est sous forme de licence? Comment est-ce que vous implantez vos solutions et comment vous rémunérez, bien sûr?
Oui, alors le marché de l'éducation, c'est un marché assez complexe parce qu'il est très découpé entre les régions qui s'occupent des lycées, les départements des collèges, les mairies des écoles.
Donc il y a des appels d'offres.
Et donc voilà. Donc nous, on travaille avec l'éducation nationale via des appels d'offres. On travaille avec les collectivités territoriales avec des contrats, des projets en général. Mm-hmm. Et après, on a des licences pour les parents et des licences pour les établissements.
Et ça vous rapporte combien? C'est combien une licence ou les autres modes de déploiement?
Alors pour les parents, en fait, on a une version gratuite et une version à 5 euros par mois. Pour les établissements, on est à 670 euros hors taxes par an pour tout l'établissement. Voilà, et après les projets, bah effectivement, ça dépend du projet.
Et vous en êtes où? Est-ce que les objectifs de déploiement sont en phase avec vos attentes? Ça va s'accélérer peut-être?
Alors en fait, on a dépassé en fait nos objectifs de l'année par rapport au prévisionnel, donc on est extrêmement content et c'est très encourageant pour la suite.
Combien de salariés chez Cantou à l'instant T?
On a une dizaine dans l'entreprise.
Et les logiciels, vous les fabriquez où? En France?
Oui, en France, et on travaille avec des partenaires français, chez OVH en particulier.
Un mot donc de cette soirée qui a lieu le 17 octobre. Vous avez été un des grands gagnants de l'édition 2023 de la Fabrique Abeille Assurance. Il y a eu plein de prix. 60 000 euros en tant que lauréat gagnant de la région Nord-Est, 25 000 euros prix du public avec le média positif et 100 000 euros en tant que lauréat du Grand Prix Coup de cœur. Au-delà de l'argent, tous ces grands prix, vous avez aussi, on va peut-être voir quelques images via votre associé qui a été récompensé sur BFM Business dans un Tech for Future au mois dernier, lauréat du réseau Entreprendre Nord en 2022. Tous ces labels, ça vous apporte de l'argent, mais ça vous apporte quoi d'autre dans le développement de l'entreprise Cantou?
Ça dépend à quel moment ils interviennent, parce qu'en fait, quand on crée une entreprise, la première étape c'est de créer un produit, et ça déjà pour avoir un produit finalisé, c'est déjà tout un challenge, et donc ça a permis ça. Et aujourd'hui, le deuxième challenge derrière, c'est comment une fois qu'on a un vrai produit qui fonctionne bien et qui apporte une vraie solution. Comment on le fait connaître aux personnes qui en ont besoin. Et c'est là que se déclenche le nouveau challenge. Et c'est là où j'aimerais remercier la Fabrique Abeille Assurance de se positionner sur ce créneau-là. Parce que c'est un créneau qui est, enfin c'est un positionnement qui est très où il y a très peu de financement finalement. Il y a beaucoup d'aide au début et moins sur cette phase-là qui est pourtant extrêmement importante pour la réussite de l'entreprise.
Mais en tout cas, quand on voit le palmarès de la Fabrique Abeille Assurance des dernières années, il y a que des sociétés qui ont vraiment fait leur trou et leur chemin. Donc c'est ce qu'on vous souhaite également. Merci beaucoup François Billoux d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir pour Cantou et sa solution Cantou Scribe. L'émission, vous le savez, est diffusée en télé, en radio et sur tous nos supports digitaux. La semaine prochaine, on en parlera avec vous, Philippe. Ce sera une spéciale Made in France. Nous serons au cœur du salon Porte de Versailles à Paris. On y parlera entre autres d'ameublement français, d'électroménager français, mais aussi d'un espace, l'usine éphémère, qui va montrer au grand public quelques-unes des machines qui permettent de mieux et de plus produire en France. Très bonne journée, très bon week-end, et donc rendez-vous la semaine prochaine sur BFM Business pour parler de Made in France.
BFM Business, la France a tout pour réussir.